soit numérique et tais-toi.
Le numérique nous rapproche de cette réalité.
Allez, je vais t'apprendre deux, trois petits trucs.
Le numérique matérialise la réalité qui nous entoure.
J'ai rien compris.
Non, ou alors c'est moi.
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Tais-toi, va, Fada.
Le numérique, c'est avant tout du traitement de symboles.
Tais-toi.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais rien, toi.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Sois numérique et tais-toi, l'émission qui, chaque semaine, aborde en 10 minutes une des multiples questions sur les technologies numériques et informatiques qui s'occupent de nos goûts pour la pizza 4 fromages, de nos vidéos préférées et de notre enthousiasme pour les marques de pâte à tartiner, même si l'on ne comprend pas toujours pourquoi et comment nous payons quand c'est gratuit. Cette semaine, Sois numérique et tais-toi est en Suisse, à Lausanne, à la rencontre du sociologue du numérique, Thomas Jamet, qui va nous parler de ses travaux de recherche sur les plateformes d'hôtellerie en ligne. Bonjour Thomas Jamet.
Bonjour.
Alors, bienvenue dans l'émission. Comme je l'avais déjà expliqué, on se connaît hein, parce qu'on a fréquenté la même université durant quelques années. Et tu travailles actuellement à l'université de Neuchâtel sur une étude qui porte sur les hôteliers suisses et leur réaction face à la numérisation de leur métier. Donc, qu'est-ce qui est étudié dans ce projet de recherche ?
Alors, ce projet de recherche, dont je précise tout de même qu'il est financé par le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique, s'intéresse globalement à la façon dont les hôteliers et surtout leurs organisations professionnelles cherchent à s'adapter, voire à résister aux online travel agencies, comme on le dit couramment, donc aux plateformes de réservation et d'évaluation d'un hébergement, telles que Booking.com, Hotel.com, mais également Airbnb.
Donc c'est quand même relativement large hein, comme analyse. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels tu travailles actuellement qui sont intéressants et que tu pourrais nous partager à nous et aux auditeurs ?
Un des éléments qui, moi, m'intéresse particulièrement et qui est un sujet de recherche qui intéresse de plus en plus les sociologues en règle générale, c'est celui de l'évaluation des prestations par les consommateurs.
D'accord, oui, c'est vrai que une des particularités du numérique, c'est que aujourd'hui, on est à chaque fois qu'on utilise un service invité à noter la qualité du service, noter nos trajets en taxi, et donc c'est aussi le cas pour les hébergements.
Exactement. Dans l'économie de plateforme en général, le consommateur est invité à évaluer la qualité ou le professionnalisme du service qu'il a reçu. Et dans l'hôtellerie, on a des sites tels que Booking.com, la plupart de ces sites, qui eux-mêmes invitent à évaluer. On a aussi des agrégateurs d'avis, comme TripAdvisor, qui est le plus connu de ces sites, et qui contribue finalement à perturber l'évaluation professionnelle en la mettant, disons, en confrontation, dans certains cas de figure, avec une évaluation profane, une évaluation amateur, qui inquiète les professionnels, puisque eux-mêmes ont des systèmes de classification des hôtels, des systèmes d'évaluation, qui sont gérés par des professionnels agréés, disons assermentés, et qui, là, perdent de l'importance face à la multiplication des avis de consommateurs.
D'accord, donc en gros, ça veut dire que n'importe qui en fait devient un évaluateur et n'importe qui peut donner son avis sur tout finalement.
Oui, exactement. Et dans le cas de l'hôtellerie comme dans celui de la restauration qui a été davantage étudié à ce jour que celui de l'hôtellerie, ce que montrent plusieurs travaux, c'est que cette évaluation profane provoque deux grands changements par rapport à l'évaluation professionnelle. D'une part, l'inclusion et d'autre part, la participation. C'est-à-dire que, contrairement aux guides spécialisés qui fonctionnent sur un principe d'exclusion, pensez au Gomio par exemple, oui, ou au guide Michelin pour les restaurants, qui ne sélectionnent que les meilleurs restaurants, on a ici une palette très très large finalement de prestataires, en l'occurrence restaurants ou hôtels, qui peuvent être évalués. Et le deuxième aspect, c'est précisément la participation, puisque n'importe qui, effectivement, et non plus uniquement ces évaluateurs assermentés, peut donner un avis, et c'est-à-dire exprimer un jugement sur la qualité de l'offre qu'il a consommée.
Donc oui, en gros, ça veut dire que même un hôtel qui n'a pas forcément une réputation, on va dire, traditionnelle, va pouvoir émerger avec les avis, devenir un concurrent d'hôtels qui peut-être avaient une réputation établie et ne se sentaient pas menacés par ces outsiders, c'est ça ?
Exactement. Et c'est bien là que ça inquiète les professionnels, puisque sur un site comme TripAdvisor, mais même comme Booking.com, ces sites vont créer leur propre hiérarchie des hôtels, souvent en mettant en avant, c'est-à-dire en mettant en haut de la liste, donc en visibilisant davantage, les hôtels qui auront eu la meilleure appréciation par les clients. Ce qui fait qu'un hôtel 5 étoiles peut apparaître moins bien classé qu'un hôtel 3 étoiles, dont le service ou l'amabilité du personnel aura été particulièrement apprécié.
D'accord, donc ça veut dire que d'un côté, on a des classements par étoile, on va dire traditionnels, et de l'autre côté, les avis. C'est une concurrence en fait entre deux modes d'évaluation qui est en jeu. Est-ce que c'est pas finalement quelque chose de positif ? Parce que souvent, on voit dans ces nouveaux mécanismes d'évaluation la possibilité aussi de casser des réputations qui sont indues, des personnes qui sont en quelque sorte héritées d'une réputation et dont ils ne sont plus à la hauteur. Comment est-ce que les hôteliers, eux, perçoivent ces situations ?
Alors, ça peut effectivement être positif sur le principe. Après, ce qui inquiète particulièrement les hôteliers, c'est le fait que leur distribution numérique, pour parler comme eux, c'est-à-dire la mise en location finalement de leur chambre, passe de plus en plus par ces plateformes et également par les sites web des offices du tourisme. Par exemple, dans le cas de la Suisse, on a Suisse Tourisme, qui est donc l'office national du tourisme, si on peut dire, qui a son propre site web de marketing qui s'appelle myswitzerland.com. Comme le nom l'indique, l'idée est de se construire son voyage sur mesure pour les voyageurs du monde entier. Et ce type de prestataire-là a des campagnes marketing qui permettent de mettre en avant les meilleurs hôtels d'une région, les meilleurs hôtels en fonction d'une thématique. Et ce prestataire-là, Suisse Tourisme, a depuis très récemment intégré l'idée qu'un hôtel, pour apparaître dans une campagne de promotion, doit avoir un taux de satisfaction client d'au moins 80%, ce qui se traduit par 4 étoiles sur 5, ce qui fait que là se reproduisent des inégalités entre les hôtels, où finalement l'hôtelier doit tout faire pour satisfaire son client, pour veiller à pouvoir profiter de cette mise en visibilité de la part des prestataires du secteur du tourisme.
Ton travail, hein, c'est aussi un travail de terrain. J'imagine que tu as pu rencontrer, faire des entretiens avec des hôteliers. Eux, en tant qu'individus, en tant que professionnels du secteur, comment est-ce qu'ils vivent ce changement de situation ?
Alors, sur l'essor des intermédiaires que sont ces plateformes, beaucoup se plaignent de la dépendance qu'ils vivent aujourd'hui à l'égard de Booking, Expedia, Hotel.com, comme je le disais tout à l'heure. Et sur l'évaluation en particulier, ce qu'on entend le plus souvent dans les entretiens, c'est l'idée d'une transformation profonde de la profession. Et comme le disait récemment un hôtelier avec qui j'ai discuté, le premier geste de l'hôtelier le matin consistait à se rendre dans la boulangerie la plus proche pour acheter les croissants, à discuter avec le boulanger, puis à discuter avec le facteur. Et aujourd'hui, ce premier geste du jour consisterait à aller vérifier l'évolution de sa réputation sur Internet et à essayer d'agir le plus possible sur les évaluations, ce qui se traduit dans certains cas par la tentation de la triche également, par exemple par la création d'adresses mail fictives dédiées expressément à la rédaction de faux avis pour tromper les algorithmes, si l'on peut dire, de TripAdvisor, en multipliant les avis positifs qui ne correspondent à aucune expérience réelle, l'objectif étant simplement de remonter, d'avoir une meilleure note moyenne et donc d'apparaître davantage sur ces sites.
C'est quand même intéressant hein, pour les auditeurs qui nous écoutent. Ça veut dire que chaque fois qu'on est amené à évaluer un service dont on a bénéficié, notamment des services d'hôtellerie, toutes les notes et toute la participation par la rédaction d'avis sert finalement à réordonner des réputations dans certains secteurs et également c'est la source de stress pour les hôteliers. Donc merci beaucoup Thomas Jamet et je vous dis quant à vous à la semaine prochaine.